Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs. Je vous souhaite une excellente journée de sabbat. Comme M. Micker vous le disait dans sa récente émission d'À propos, le bureau est en pleine effervescence. Et je peux vous confirmer que tout s'y déroule, jour après jour, semaine après semaine, dans une merveilleuse ambiance de coopération. Quel contraste avec la société qui nous entoure, où l'amour a tendance à se raréfier, nous le savons, où tout tourne presque exclusivement autour du profit matériel et où l'intérêt de la personne semble disparaître, en tout cas, est relégué au second plan. Vous savez, j'ai moi-même travaillé pendant de longues années en France et aux États-Unis dans diverses entreprises. Je peux vous garantir que l'ambiance ici, au bureau, à McKinney, au siège central de l'œuvre, est absolument unique en termes d'efficacité, de soutien, d'amour, de motivation et du sens des responsabilités que tous nous pouvons avoir entre collègues au service de l'œuvre de Dieu avec la prédication de l'évangile du royaume à toutes les nations. C'est un privilège inestimable et aucun d'entre nous d'ailleurs ne saurait le prendre à la légère. C'est une expérience inestimable aussi de voir à quel point M. Micker et l'équipe des administrateurs nous soutiennent, ils prennent soin de nous, et aussi de constater les talents des uns et des autres, avancer d'un commun accord dans la bonne direction. Et c'est aussi une expérience unique, très impressionnante, que de voir à quel point Dieu, notre Père suprême et Jésus-Christ, notre frère aîné, nous porte puissamment dans cette direction. Et pourtant, nous ne sommes pas importants. Nous ne sommes que des outils entre ses mains. Mais c'est ainsi que Dieu a procédé dans toute l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église de Dieu. C'est ainsi que Dieu a fait avancer son œuvre de prédication. Il l'a fait depuis des siècles, tout au long de l'histoire de l'Église. Depuis l'an 31 de notre ère, il y a presque deux millénaires maintenant. Vous savez, il y a quelques années, je travaillais dans une grande surface, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Travailler dans le secteur commercial de la grande distribution, ce n'est pas chose facile, ni en Europe, ni surtout aux États-Unis. Au fil des ans, j'ai pu occuper plusieurs fonctions. Et un jour, un client m'a gentiment posé une question, alors que je travaillais sur l'inventaire d'un rayon. Nous savions que quel que soit notre rôle, que nous soyons un simple employé ou même le directeur du grand magasin, nous devions être heureux, nous devions donner l'impression au moins d'être heureux. Et c'est important quand on fait du commerce. Il faut donner l'impression d'être heureux, quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés, je dois reconnaître que c'est une bonne école qui forme le caractère, même si elle semble dure parfois. Et ce jour-là, eh bien, je ne devais pas être trop souriant, car le client m'a demandé, avec un ton tout à fait normal, si j'aimais mon travail. Et je lui ai honnêtement répondu que oui, c'était le cas. Et comme la conversation semblait bloquée à ce moment-là, un silence s'est établi, j'ai enchaîné tout de suite en lui posant la même question. « Et vous, est-ce que vous aimez votre travail ?» Et il s'est arrêté un instant comme pétrifié, et il m'a dit « Oh oui ». Un instant plus tard, j'avais compris que la question, en fait, n'avait qu'un but, me faire comprendre que je ne souriais pas trop, je n'avais pas l'air très très heureux. Le directeur du magasin ne m'a pas convoqué, je n'ai pas été renvoyé, je ne sais même pas si ce client a été le voir, mais quand même, pendant quelques jours, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va arriver ? Et il est vrai que pendant près de 10 ans, j'ai vu des personnes aller et venir, des personnes être embauchées et des personnes être renvoyées. À mon tour maintenant de vous poser la question. Est-ce que vous aimez votre travail ? Est-ce que vous aimez votre travail ? Et je le dis bien entendu, croyez-le bien, avec un respect absolument intact à votre égard, à chacun d'entre vous. Nous voudrions tous avoir un emploi rêvé. Et encore une fois, ici, au bureau à l'œuvre, c'est une ambiance de travail absolument exceptionnelle. nous en mesurons le privilège. Mais une fois que, tous autant que nous sommes, nous rentrons à la maison, une fois que nous sommes dans nos maisons, nos défis, les difficultés de la vie, pour beaucoup d'entre nous, sont souvent les mêmes. Nos vies sont certainement très différentes, je ne dis pas le contraire. Oui, mais il existe quand même un tronc commun de problèmes. Par exemple, des soucis de santé pour certains, la peine de la solitude pour d'autres, des ennuis financiers, que sais-je. Certains vivent même dans des endroits où ils peuvent être victimes d'une agression. Et puis, pour chacun d'entre nous, il y a aussi le doute quant à notre progression chrétienne. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie sur le plan chrétien? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Qu'est-ce que Dieu me demande? Parfois, le doute vient dans notre esprit. Nous avons nos difficultés, tous autant que nous sommes. Nous avons notre combat. Mais revenons-en à notre travail, à votre travail. Aimez-vous votre travail? Rares sont ceux qui, non seulement ont découvert très tôt ce qu'ils voulaient faire, personnellement, quand j'ai passé mon bac, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et aussi, rares sont ceux qui ont fait le nécessaire pour acquérir la formation nécessaire pour véritablement aller dans une carrière qui allait atteindre son paroxysme, qui allait faire d'eux des personnes qui ont vraiment maîtrisé leur travail. L'économiste français Charles Gave a parlé du créateur d'entreprise. Il a dit que c'est celui qui a reçu ce don divin de l'étincelle créatrice. Le don divin de l'étincelle créatrice. C'est quelque chose d'assez bien formulé, je trouve, personnellement. Vous avez une idée, vous avez compris qu'il y a quelque chose que personne d'autre ne faisait, ou que personne ne faisait aussi bien que ce que vous aviez planifié de faire et que vous savez que vous pouvez accomplir, vous êtes un créateur d'entreprise en puissance. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Évidemment, c'est juste le départ. Mais il a compris que lui, le créateur d'entreprise, pouvait apporter aux autres ce que personne d'autre ne savait faire encore. Malheureusement, ces créateurs, ils sont rares. Et beaucoup ont essayé sans succès. Certains, d'ailleurs, ont même connu des revers financiers. Et puis, pour beaucoup d'entre nous, dans nos vies, surtout en début de carrière, lorsque nous sommes de jeunes adultes, eh bien, nous sommes tombés sur un emploi un peu par hasard, par accident. Ça arrive souvent. Nous nous sommes peut-être renfermés dans cet emploi pour nous y sentir en quelque sorte piégés. Nombreux sont ceux qui sont obligés d'accepter n'importe quel travail. Il n'y a pas de honte à cela. On peut très bien avoir un très beau diplôme et commencer à un petit échelon. C'est d'ailleurs tout à fait logique. Mais on peut aussi malheureusement se laisser piéger dans quelque chose qui ne correspond pas du tout. C'est malgré tout, même si c'est frustrant, c'est l'occasion de bien s'acquitter de sa tâche. L'exemple de Joseph revient en mémoire. Voilà pourquoi, malheureusement, on entend souvent les gens dire ou avouer, se plaindre et avouer à demi-mot « Non, j'aime pas le travail que je fais ». Vous savez, le premier homme sur la terre, le premier homme ayant jamais vécu, Adam, il avait reçu de son créateur un emploi absolument merveilleux. Imaginez-vous un instant à la place d'Adam, ou de Ève, son épouse. C'est le paradis sur terre, la température est idéale, les fruits, les légumes poussent sans difficulté, l'eau est pure, les animaux sont paisibles, qui plus est, et même ceux que nous connaissons actuellement comme étant des fauves. Et en plus, votre créateur est là, avec vous, il marche à vos côtés dans le jardin, et il vous enseigne, il vous instruit dans sa parole, il vous donne tout en plus. Tout, toute la terre, le globe entier. Il est à vous et à votre famille, à vos enfants. Votre famille s'appelle l'humanité. Imaginez cela un instant. Et puis, votre premier emploi vous est offert par Dieu. Un emploi à la fois scientifique et littéraire. Alors imaginez le premier homme. C'était une création parfaite. Un homme doté d'une intelligence rigoureuse, fiable, avec une tranquillité d'esprit parfaite, un homme capable d'élaborer des concepts, de comprendre le langage de Dieu, quelque chose de véritablement, il était capable de comprendre une partie des sciences, une partie de la littérature, comment s'exprimer correctement. Il n'y avait rien d'autre à lire que la parole de Dieu. Mais quelque part, cet homme va effectivement recevoir un emploi absolument unique. Je disais, à la fois littéraire et scientifique, qu'est-ce que Dieu lui demande ? Il lui demande de classifier les animaux, ou plus exactement, de leur donner un nom dans la langue de Dieu. C'est quelque chose de formidable. Avec de la nourriture, de toutes sortes. Vous allez, en tant que couple, pouvoir vous en occuper. Vous allez pouvoir l'entretenir, ce jardin. La tâche peut, de prime abord, paraître énorme. Cela n'a pas dû être au départ quand même trop difficile. Comme je le disais, tout était verdoyant, tout était parfaitement conçu, il y avait des cultures abondantes, tout poussait sans difficulté, et tout était facile à récolter. Mais dans ce monde merveilleux, un beau jour, quelque chose a changé. Le bel écrin, le beau jardin d'Éden, qui abritait ce merveilleux milieu, il était toujours là, cependant, mais l'homme et la femme s'en retrouvent chassés. Pourquoi ? Ils ont pris une décision tout à fait étonnante et ils se sont retrouvés dehors. Dieu les a enlevés du jardin d'Éden. Nous n'aurions probablement pas fait mieux qu'eux. Et d'ailleurs, leur ancienne demeure en Éden, le merveilleux jardin qui les avait auparavant abrités, je le disais, il était toujours là. Les chérubins qui en gardaient l'accès agitaient leur épée flamboyante, mais l'accès en était interdit. Et Adam et Ève ont certainement compris ce qu'ils avaient perdu en continuant de voir de loin la différence entre leur nouvel environnement à l'extérieur du jardin et ce qu'ils avaient reçu auparavant. Cela a dû représenter pour eux pendant des années une certaine somme de regrets. À cause de la désobéissance, Dieu a donc enlevé sa protection sur beaucoup de bienfaits qu'il avait initialement donnés. Et c'était justice. C'était justice. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Adam et Ève avaient fait le choix de respecter un autre Dieu, le Dieu de ce siècle, le serpent ancien, le dragon, le père du mensonge. C'est un acte d'infidélité totale. Il faut bien comprendre la réaction parfaitement logique de Dieu. Imaginez une fiancée qui rompt ses fiançailles, qui décide de partir avec un autre homme. Le mariage, nous le savons bien, tel qu'il est institué par Dieu, c'est un partenariat contractuel physique entre deux êtres, un homme et une femme. Mais c'est aussi un partenariat contractuel, spirituel, tripartite, entre trois êtres, Dieu, un homme et une femme. Donc si l'homme ou la femme se choisissent un autre Dieu, c'est-à-dire le Dieu de ce siècle, il y a là un adultère spirituel. Le contrat initial est rompu. Et c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Dieu les a laissés libres, libres de leur choix. Il ne les a pas forcés à lui obéir, mais il leur a fait comprendre que la désobéissance produit la confusion, le chaos, la désolation et la mort. Adam et Ève se sont retrouvés environnés dans un monde désormais totalement changé, privés de la protection généreuse de Dieu sur l'ensemble des bienfaits naturels. Tout avait changé. Le travail était devenu pénible, le labeur était devenu fatigant, éreintant, les mauvaises herbes et les épines ont commencé à pousser, les animaux sont devenus agressifs, sauvages, inquiétants, prédateurs, un milieu complètement transformé, totalement différent de celui du merveilleux jardin d'Éden créé par Dieu. Quelle a été la réaction d'Adam ? Au fil du temps, Adam a-t-il fini, lui aussi, par détester son travail, ses responsabilités ? La Bible n'en parle pas, elle ne le révèle pas explicitement, Mais les mauvais choix d'Adam, sa désobéissance, suffisent pour se douter du résultat sur la valeur réelle de son bonheur. Nous ne connaissons pas l'histoire complète de la vie d'Adam, qui a vécu, nous le savons, la Bible nous le dit, presque un millénaire. Rendez-vous compte, 930 ans, c'est presque aussi long que l'homme ayant vécu le plus grand nombre d'années, 969 ans, c'est-à-dire Mathusalem. Il a certainement, Adam, connu des épreuves, il a certainement connu des échecs, mais il a probablement aussi connu un certain nombre de succès. Rappelez-vous, c'était le premier homme créé parfaitement par Dieu. Considérons maintenant la vie d'un autre homme. Beaucoup plus courte, certes, il n'a vécu que 110 ans seulement, si j'ose dire, c'est déjà beaucoup plus que ce que nous pourrons vivre nous-mêmes. Mais la Bible, non seulement retrace une grande partie de sa vie, mais nous montre aussi l'exemple extraordinaire de cet homme. Un homme qui, inlassablement, a su laisser les mauvaises situations tourner à son avantage. Je vais vous parler du fils de Jacob, Joseph, le Joseph de l'Ancien Testament. Dans Genèse, chapitre 39 à 41, nous trouvons son histoire. Et cette histoire du jeune Joseph, vendu comme esclave en Égypte par ses frères étaient jaloux de lui, c'est une suite absolument incroyable de succès, de revers, d'épreuves, de retournements de situation, pour finir par une vie, hein, tout est bien qui finit bien, une vie heureuse, une vie glorieuse, et une abondance extraordinaire de gloire, de richesse, de sagesse et de bénédiction de toutes sortes. Merveilleux récit. Quel parcours ! Quel exemple que celui de Joseph ! Quel exemple pour nous tous, chrétiens ! En résumé, Joseph, que pouvons-nous dire de sa vie ? Il avait été acheté, rappelez-vous, par le riche officier Potiphar. Il travaillait chez lui comme intendant. Et Joseph s'était malheureusement, très rapidement, retrouvé injustement en prison. Il était faussement accusé par la femme de Potiphar. Et là, en prison, dans cet environnement désespérant, décourageant, Joseph a pris ses responsabilités à cœur. Il a retourné la situation en sa faveur, par un travail bien fait, en mettant ses talents au service de son maître, de son supérieur dans la prison, donc avec un comportement humble et avec une véritable humilité. Non pas par opportunisme, hein, au sens péjoratif du terme, au sens péjoratif où nous l'entendons habituellement. Vous savez, l'opportunisme, c'est souvent en français l'occasion de profiter des situations pour s'auto-promouvoir, pour se mettre soi-même en valeur, dans un but égoïste. Mais utiliser ses propres talents pour servir les autres, là c'est différent. Ce n'est pas de l'opportunisme. C'est vraiment avoir un tempérament de serviteur. Non pas de celui qui se sert, mais de celui qui sert les autres. Joseph ne saurait être accusé de vouloir se mettre en valeur, de failloter, comme on dit vulgairement en français. Non, il faisait simplement son travail, et il le faisait bien, au point que le gardien de la prison faisait confiance, c'est absolument incroyable, il faisait confiance à l'un de ses prisonniers. Joseph était l'un des prisonniers et lui confiait tout ce qu'il avait. Au final, après de longues années d'emprisonnement, ponctuées de concours de circonstances, Joseph enfin va être extrait de sa prison, pour interpréter le songe rêvé par quelqu'un. Et pas n'importe qui, le pharaon lui-même. Pour lui annoncer quoi ? Pour lui annoncer qu'une famine de plusieurs années allait s'abattre sur l'Égypte. Rappelez-vous, c'est le fameux rêve des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses. Et le pharaon décide, à la suite de la révélation de la signification de ce songe, il décide de nommer Joseph au second poste dans la hiérarchie égyptienne. On dirait de nos jours, il est devenu premier ministre. Dans quel but ? Justement, pour lui confier la tâche de préparer son pays à cette famine annoncée, avec évidemment une solution viable pour faire face à cette crise d'ampleur nationale. et même d'ampleur internationale, comme nous le lisons dans le chapitre 41 de la Genèse. Chapitre 41. Voilà qui permettra à l'Égypte non seulement d'être sauvée de la famine, mais en plus d'engranger des bénéfices économiques extraordinaires. Et les leçons que nous pouvons retirer de l'histoire formidable de Joseph sur le plan personnel, Joseph, donc fils d'Israël, sont la valeur inestimable de l'honnêteté, de l'intégrité, de la persévérance et aussi de la confiance en Dieu. De la confiance en Dieu. C'est vraiment l'un des plus beaux récits de la Genèse, de la Torah et même de toute la Bible. La Bible parle aussi d'autres exemples de situations difficiles, d'emplois difficiles, d'emplois pénibles qui se sont tournés à l'avantage des travailleurs, qui se sont produits dans l'histoire du pays. Pour commencer, rappelez-vous, avant de devenir toute une nation, Israël n'était qu'une population asservie, méprisée en Égypte, une population de pasteurs, d'éleveurs. Les Égyptiens étaient essentiellement des agriculteurs. Et ça, c'est toute l'histoire de l'Afrique et du Proche-Orient, d'ailleurs, l'histoire tribale entre l'agriculteur et l'éleveur ou le voyageur. Ils n'étaient que des esclaves placés sous un joug cruel, celui des Égyptiens. Eh bien, Dieu en a fait une nation, par sa main et par son bras étendu. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 2, nous trouvons l'histoire de cette jeune femme pauvre, Ruth, qui est obligée d'aller glaner dans les champs, mais dont le destin va basculer, lui aussi, pour devenir l'épouse d'un homme puissant, Boaz. Et le petit-fils de Ruth sera le père du roi David, dont la descendance royale, nous le savons, s'étendra jusqu'à Marie, mère de Jésus, et jusqu'au beau-père de Jésus, Joseph, le Joseph du Nouveau Testament. Voilà le destin glorieux de Ruth, une femme qui a connu des difficultés au cours de sa vie, mais qui n'a pas renoncé. Elle n'a pas renoncé. Elle a persévéré dans sa détermination à faire ce qui est bien autour d'elle. Malgré les défis, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Rappelez-vous aussi de l'exemple de l'apôtre Paul, missionnaire au cours de ses fréquents voyages. Tout au long de ses lettres, tout au long du livre des Actes, nous voyons qu'il souffrait souvent. En particulier, il souffrait la persécution. Et il n'était pas le seul, les autres apôtres ont souffert la persécution. Alors, quand on prend connaissance de tous ces exemples de personnalités bibliques, peut-être cela nous donne-t-il, je l'espère, nous l'espérons tous, une autre optique sur notre travail. Et peut-être apprécions-nous davantage, vous savez, la tranquillité relative de nos existences, de notre propre situation, d'une façon ou d'une autre. Mais il se peut malgré tout que parmi nous, eh bien, nous avons des frères ou des sœurs qui n'aiment pas tellement leur travail, leur emploi actuel. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous réveiller chaque matin en vous disant que vous n'avez pas envie d'aller travailler? Ça peut nous arriver à tous. Où allez-vous essayer de changer votre situation? Apparemment, toutes les options sont sur la table devant vous et vous avez le choix. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez continuer de ne pas aimer votre travail et d'en rester là. Ou bien, vous pouvez aussi apprendre à vous en contenter. Et oui, ça fait partie des options. À accepter votre emploi. Regardez ce que Joseph a fait. Mais ce ne sont pas les seules options. Vous pouvez aussi, bien entendu, rechercher un autre emploi. Et nous allons voir en détail, repasser en détail le B.A.B.A. de la recherche d'emploi. Vous pouvez utiliser vos aptitudes, déceler vos capacités, faire la revue, en quelque sorte, de vos talents. Et puis, peut-être aussi, souhaitez-vous développer de nouvelles compétences. Pourquoi pas? Qui vous permettraient d'obtenir justement un emploi qui correspondrait mieux à ce que vous aimiez faire. C'est peut-être le cas. Donc, si vous ne pouvez pas changer d'emploi, par contre, pas cette possibilité, vous pouvez, comme je le disais, au moins apprendre à l'aimer, apprendre à vous en contenter, apprendre à exploiter votre situation pour le mieux. L'exemple de la vie de Joseph est très parlant à ce sujet. Et c'est véritablement un réconfort qui nous est donné par Dieu lui-même dans sa parole. Il nous montre, son exemple, que même dans une situation difficile, apparemment inextricable, rendez-vous compte, la prison, difficile de penser pire, eh bien, la vie quotidienne peut devenir dynamique, aussi étrange que cela puisse paraître. Elle peut même devenir joyeuse d'une certaine façon, une joie intérieure. Et où le gain final, en sortant de cette situation initiale, qui ne durera pas, évidemment, toute la vie, eh bien, au-dessus, le résultat sera bien au-delà de nos espérances. Reportons-nous dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 10, pour commencer. Soyons reconnaissants d'avoir du travail. Vous savez, un certain nombre d'entre nous, malgré leurs recherches, n'ont pas encore trouvé un travail. Nous devons penser à eux. Nous devons penser à eux dans nos prières, demander l'intervention miséricordieuse de Dieu. Dieu fait grâce à celui qu'il aime, à celui qui craint son nom, à celui qui rejette le mal et qui rejette les idoles. La Bible nous donne à tous le conseil suivant dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10. Il dit, l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, quelle que soit notre activité, faisons les choses avec toute l'énergie dont nous sommes capables. Cherchons à accomplir les choses de bon cœur. Nous connaissons tous l'expression « mettre du cœur à l'ouvrage », une expression qui désigne une personne qui met beaucoup d'enthousiasme dans tout ce qu'elle fait, qui met beaucoup de passion dans ses actions et dans son travail. Nous pouvons en effet nous fixer l'objectif d'être le meilleur dans tout ce que nous faisons. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, je ne m'y reporte pas, mais l'apôtre Paul décrit aussi cette façon de faire. Tout ce que vous faites, il écrit, faites-le de bon cœur. Faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Nous devrions être motivés. Nous devrions être intègres, peu importe la tâche à accomplir, parce que c'est la bonne chose à faire. Dans nos travaux, dans nos œuvres, dans notre façon de travailler, il existe toutes sortes de défis. Mais la recherche de l'excellence dans l'accomplissement, même c'est un aspect, c'est une chose. Mais ce n'est pas le seul. Par exemple, il est important aussi de savoir, d'avoir cette intelligence, cette présence d'esprit, de se mettre à la place de notre employeur. D'essayer de comprendre de deviner quelles sont ses attentes. Parfois, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'il apprécierait? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait la différence? Ou qu'est-ce qui rendrait son travail plus facile? Ou qu'est-ce qui rendrait le travail de mes collègues plus facile? Dans tout cela, ces choses vont finir par se faire remarquer. Et nous voulons que les gens se souviennent de nous pour le bien que nous avons fait, pas pour le mal, pas pour les mauvais souvenirs que nous aurions pu laisser ici ou là. Tout le monde fait des erreurs, et si nous en avons fait, nous devrions avoir le désir de laisser chaque jour une bien meilleure impression. Une bien meilleure impression. Et de conquérir, petit à petit, brin par brin, on dit l'oiseau fait son nid. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, dans un esprit de conquête, dans un esprit d'effort. Nous n'avons pas besoin de nous faire remarquer, d'être tonitruants, ou d'être obséquieux aussi, de faire des courbettes. On peut faire des compliments, mais on n'a pas besoin de les distribuer à qui mieux. Évitons la surenchère dans les apparences. Et soyons plutôt sincères et faisons les choses avec discrétion, normalement, sans chercher à nous faire remarquer. Soyons une lumière, comme nous le dit Jésus. Et comme d'ailleurs un pasteur le faisait remarquer, d'ailleurs une lumière, ça ne fait pas de bruit. Une lumière est discrète. Mais elle se voit. Elle se voit. Elle brille d'elle-même. Ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons de positif, soyons confiants, cela finira par être remarqué. Cela finira par être remarqué. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Il a dû attendre des années avant de sortir de prison. Donc ne soyez pas découragés. Dieu note tout, il voit tout, il voit les progrès que nous faisons, même dans notre humiliation. Et un jour, les choses changent pour le mieux. Et là, dans le cas de Joseph, elles ont changé de la position la plus basse à la position la plus élevée. Cette histoire a eu, a et aura un impact sur la vie des chrétiens, un impact fabuleux. Je me souviens d'un ancien dans l'Église aux États-Unis qui m'a raconté il y a quelques années son expérience vécue dans la vie du travail. Et d'ailleurs, je lui suis très reconnaissant de l'avoir fait. Voyez-vous, au cours de sa vie, il a été un ingénieur brillant, extrêmement travailleur. C'est un homme doux, je le connais, il est discret, et c'est un homme de cœur. Il a travaillé dans une entreprise qui, à l'époque, lui promettait une position élevée au niveau de la direction industrielle, de la production industrielle. Et cette position exigeait, évidemment, c'est naturel, hein, une rémunération bien plus importante que celle qu'il avait comme ingénieur principal. Pourquoi ? Eh bien, tous les créateurs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise vous le diront, en raison de l'intensité du travail, en raison des risques, en raison des responsabilités et de tout l'environnement qui peut être fait, ces choses sont naturelles. Il y a des différences de salaire qui sont justifiées. Eh bien, au fil du temps, l'ingénieur s'est rendu compte de quelque chose. Il a compris que tout à coup, le directeur de l'entreprise changeait de comportement à son égard. Quelque chose s'était produit. Il semblait tout d'un coup inamicable et aucune raison ne lui était donnée sur cet état d'esprit pour le moins surprenant. D'habitude, aux États-Unis, quand les choses ne vont pas sur le plan du travail, eh bien, le patron ou le chef de service vient vous voir, il vient vous convoquer ou il vous convoque pour mettre les choses au clair. Il faut changer telle ou telle chose qui ne va pas. Mais là, dans ce cas, rien. Alors, y a-t-il eu des ragots ? Y avait-il un préjugé sur la vie privée, sur les opinions de la personne ? Était-il persécuté parce qu'il était chrétien, qu'il observait le sabbat et non pas le dimanche ? Allez savoir. Impossible de comprendre ce qui se passait. Parce que rien n'était dit. Absolument rien. Donc, l'ingénieur, malgré tout, continue d'accomplir son travail. Il s'acquitte correctement de sa tâche. Jusqu'au jour où, finalement, le directeur vient dans son bureau et vient lui présenter une personne nouvellement embauchée qui va prendre en charge une partie de ses responsabilités. Et en plus, l'ingénieur est sollicité pour montrer à la personne embauchée comment procéder dans son travail. Et ce qu'il fait, bien entendu, avec un cœur bien disposé. Plusieurs semaines se passent, et puis, un beau jour, l'ingénieur apprend que la personne nouvellement embauchée, la personne en question, ne vient plus. Elle a été licenciée. Que se passe-t-il après ? Comme on pourrait s'en douter, le directeur a demandé à l'ingénieur de reprendre tous les dossiers laissés en plan par la personne qui maintenant était licenciée, était maintenant renvoyée, sans lui donner ni titre, ni augmentation, ni promotion. Mais cette fois, l'ingénieur apprend quelque chose d'autre. Il apprend que cet ancien nouvel employé, qui maintenant est parti, faisait son travail moins bien, moins vite que lui, et pour un salaire bien plus élevé. Alors cette fois, l'ingénieur n'hésite plus. Il recherche un nouvel emploi, un emploi meilleur, mieux rémunéré. Il le trouve et il donne son préavis de départ. Alors le fils du directeur le convoque et lui demande de rester et lui propose même un meilleur salaire. Il lui fait une contre-proposition. L'ingénieur reste ferme et il confirme son départ. Et puis les derniers mots du fils du directeur, il lui avoue ces choses. Il lui dit « Je crois bien que nous aurions dû vous payer beaucoup plus ». Ainsi va l'existence. dans laquelle, oui, il y a de temps en temps des injustices. Et tous nous subissons ou nous avons subi des injustices. Joseph avait souffert de grandes injustices, bien plus grandes que celles que beaucoup d'entre nous subiront dans leur vie. Dieu voit notre persévérance, il voit nos efforts, il ne les oubliera pas. Paul dit dans, il écrit aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 28, il écrit ceci, Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris les injustices, bien sûr, y compris les difficultés dans la recherche d'un emploi, y compris le temps qui passe, le temps qui éprouve la patience. Et dans de telles circonstances, nous persévérons dans la prière. Nous ne cessons pas de demander à Dieu de couvrir nos besoins. Nous les exprimons, nous lui parlons comme on parle à un père. Nous lui suggérons de nous délivrer. Et en faisant cela, nous évoquons les solutions qui nous viennent à l'esprit. J'aimerais bien ceci ou j'aimerais bien cela. Immanquablement, des pistes, des solutions. Les solutions auxquelles nous pensons, bien sûr. Tout en sachant que Dieu, à un moment donné, va nous délivrer. Il va nous délivrer de notre situation. Et probablement au moyen d'une réponse à laquelle nous ne nous attendions pas. Dieu a sa solution. Il sait que c'est la meilleure. Et peut-être n'y avons-nous pas pensé. La plupart du temps, nous le savons, c'est ce qui arrive. Et puis, nous demandons à Dieu aussi de nous aider à être plus efficaces dans notre travail, à avoir une attitude beaucoup plus positive et à mieux nous entendre avec les autres. Ça, c'est important, mieux nous entendre avec les autres. Il y a toujours de l'espace pour nous améliorer, des possibilités pour faire quelque chose de mieux. Quel que soit le point où nous en sommes maintenant, nous n'avons pas fini d'apprendre, nous n'avons pas fini de faire les choses mieux. Nous pouvons toujours faire mieux. Et nous le faisons d'autant plus que nous le faisons surtout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dans cette bataille, dans cet affrontement, dans cette lutte, nous aurons besoin de l'aide de Dieu. Aussi, demandons-lui de nous aider pour affronter les défis, les aspects négatifs qui pourraient émailler notre travail. Toutes ces demandes sont capitales dans nos prières. Soyons sûrs de les formuler avec nos autres besoins, comme Jésus nous le demande. C'est ainsi que la foi fonctionne, c'est ainsi que les résultats durables au fil du temps se font jour. Dieu veut nous aider. Il veut nous aider à affronter les situations, les personnes difficiles, à trouver la sérénité, le contentement. Oui, il y a un travail à fournir pour obtenir ces choses. Ça ne va pas venir, ça ne va pas tomber tout seul du ciel. Même dans des situations désagréables. C'était l'état d'esprit permanent de Paul. C'était son point de vue constant. Et il le décrit ce point de vue dans son épître aux Philippiens, où il écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, dans Philippiens, chapitre 4, verset 11. L'ingénieur, dont j'avais cité l'exemple, a recherché et a trouvé un nouvel emploi, et un bien meilleur emploi. Sa situation était, en effet, intolérable, nous l'avons vu, et il avait tout à fait raison, très franchement, de prendre cette initiative, qui d'ailleurs lui reprocherait de l'avoir prise. Il a parfaitement bien agi, alors, et il agit en toute justice, en toute honnêteté. Alors, pourquoi ne pas rechercher, dans votre cas, un autre emploi, si vous pensez que c'est le moment, si vous pensez que, effectivement, peut-être il y a des conditions qui font que non, ce n'est pas normal. Une fois que vous aurez pris cette décision, prenez le temps de consulter les annonces qui correspondent à votre qualification. Préparez votre lettre de candidature, préparez votre CV, vous en aurez besoin. Il y a maintenant, de nos jours, une multitude de conseils sur Internet. Il est facile de trouver beaucoup de conseils pour faire des lettres de motivation et des CV véritablement pointus, perfectionnés. Et puis, soumettez aussi des demandes d'emploi à des employeurs ou des cabinets de recrutement qui recherchent telle ou telle personne et vous pensez que là, oui, il y a une possibilité. Vous êtes capable, avec la formation que vous avez, avec l'éducation que vous avez, l'expérience que vous avez, vous êtes capable d'apporter un plus à cet employeur. Il y a des gens qui, des cabinets de recrutement, des employeurs, des entreprises qui recherchent des spécialistes dans votre domaine. J'ai, au fil des temps, lorsque j'étais en recherche d'emploi, il y a bien des années, les candidatures spontanées, je me suis rendu compte, dans les entreprises qui ne recrutent pas, ça ne sert à rien. Vous aurez très peu de chances de réussir, d'avoir une réponse positive. Et là, par contre, essayez de vous placer dans une optique de fourniture de vous-même dans un poste donné, dans une petite annonce parue dans la presse et qui correspond à votre profil. Et puis, le jour de votre entrevue, vous avez réussi à avoir décroché un rendez-vous avec un cabinet de recrutement ou avec un employeur, soyez professionnel. Essayez de soigner votre apparence vestimentaire. Préparez-vous à l'avance, arrivez à l'avance. Essayez d'imaginer quel sera le contenu de la conversation. Et au fil des recherches d'emploi, on a une meilleure expérience, on sait comment les choses, on connaît les questions qui nous seront posées, ça ne fera plus de mystère. Donc il faut persévérer, vous aurez peut-être 10, 15 entrevues avant de trouver l'emploi que vous recherchez, ou peut-être moins, mais ne vous limitez pas à une seule demande ou à juste deux ou trois demandes. Continuez, persévérez. Montrez à votre éventuel futur employeur ce que vous allez pouvoir lui apporter et à quel point vous pouvez lui être utile dans sa société. C'est le genre de réaction qui va jouer comme un atout gagnant en votre faveur, qui va vraiment faire la différence. L'élément le plus important dans tout cela, et de loin, dans la recherche d'emploi, c'est votre demande sincère auprès de Dieu, encore une fois, afin de vous aider, de vous guider. Pourquoi ? Afin déjà que vous puissiez faire toute votre part dans cette recherche. Et puis surtout parce que Dieu, en plus de ça, sait exactement le genre d'emploi que vous allez pouvoir obtenir, et l'employeur même, il va vous diriger vers l'employeur qu'il faut. Donc, évoquez ces choses dans vos prières. Parlez-en. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et Dieu, au final, nous délivrera de notre situation inextricable de chômage, aussi difficile soit-elle. Soyons patients, soyons persévérants. Il sait exactement le genre d'emploi, le genre d'employeur qui nous convient. Non, nous ne savons pas la plupart du temps ce qui nous convient, pas parfaitement. Dieu le sait, lui. Dieu le sait. Donc tâchons d'être patients. Il vaut mieux nous assurer que nos vies soient en harmonie avec la volonté de Dieu. Dieu a toujours le meilleur standard, la meilleure stratégie. Il est notre meilleur conseiller et c'est lui qui nous ouvre les portes. C'est lui qui nous donne les occasions, enfin, d'être libérés. Donc faisons-lui confiance. Avançons avec foi. Demandons-lui aussi la foi dont nous avons besoin. C'est un ingrédient essentiel. Et Dieu, au final, nous délivrera de notre situation, aussi difficile soit-elle. Aussi difficile soit-elle. Donc mettons systématiquement tous les atouts de notre côté. Tous les atouts. Avons-nous besoin d'une formation ? Faudra-t-il que, par exemple, vous poursuiviez des études afin d'obtenir certaines aptitudes nécessaires, particulières, dans le domaine que vous recherchez ? Il me manque ceci ou il me manque cela. C'est possible. On peut apprendre des compétences professionnelles en cours de route. Vous savez, après 2 années passées en école d'ingénieur textile, j'avais 25 ans à l'époque, j'ai dû compléter ma formation par un diplôme de programmeur d'application, de programmeur informatique, dans une association de formation professionnelle. Et puis, 25 ans plus tard, j'ai eu l'occasion de compléter cette formation dans le même institut avec un diplôme de professionnel d'automaticien industriel, qui m'a permis de trouver d'ailleurs rapidement un emploi assez dur physiquement, pénible, difficile, mais qui m'a permis de subvenir à mes besoins avant de partir pour les États-Unis. À l'époque, j'avais 47 ans, 48 ans. Donc, je suis parti ensuite aux États-Unis. C'est un pays dans lequel, malheureusement, tous mes diplômes ne servaient presque plus à rien. Mais j'ai trouvé un emploi, l'emploi dont je parlais en début de message, et qui m'a permis de soutenir mon foyer pendant presque 12 ans. Vous savez, aujourd'hui, vous trouvez facilement des cours du soir, vous trouvez des cours en ligne, ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, et dans tous les domaines et avec tous les niveaux, sur Internet. C'est absolument incroyable. Autant de choses qui n'existaient pas il y a quelques années seulement. Et puis la vie doit susciter notre curiosité. Il faut toujours apprendre de nouvelles choses, toujours, que ce soit pour notre travail ou pour améliorer nos existences dans tous les domaines, qu'il s'agisse de culture personnelle ou de loisirs. Quelqu'un disait « il faut savoir tout faire et on n'a jamais fini d'apprendre ». Évidemment, nous n'aurons jamais le temps de tout savoir, de savoir tout faire dans l'espace de cette vie. Mais dans ce dont nous avons besoin, il y a déjà beaucoup à apprendre. Le livre des Proverbes parle de la nécessité de continuer à apprendre dans la vie. Remarquez les deux passages suivants. Le premier dans Proverbes, chapitre 1, verset 5, qui dit ceci, Proverbes 1, 5, « Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. » Et dans Proverbes, chapitre 9, verset 9, il est écrit « Donne au sage et il deviendra plus sage, instruit le juste et il augmentera son savoir. » La motivation. Demandons à Dieu la motivation. Nous avons besoin de la motivation. C'est important. La curiosité, la soif d'apprendre de nouvelles choses, augmenter notre savoir. C'est une recherche qui va nous demander un engagement, de la détermination. Avec Dieu, c'est possible. C'est possible en tout temps et c'est possible à tous âges. Revenons à ce verset de l'Ecclésiaste que j'avais cité plus tôt. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce verset? Existe-t-il une méthode pour améliorer notre éthique personnelle, notre éthique chrétienne du travail? Regardez un instant le monde dans lequel nous vivons. Tout est devenu raccourci. Nous vivons dans un monde de raccourcis. Les gens sont devenus, comme disait Général de Gaulle, les partisans du moindre effort. Et cela nous inclut aussi. Nous avons tendance à laisser les choses, à faire les choses avec la solution de facilité. Parce qu'il faut faire vite, parce que les clients sont impatients. Ils sont devenus impatients pourquoi ? Parce que les concurrents font mieux en termes de service rapide. Nous vivons dans un monde de vitesse, de compétition. Et bien des gens, malheureusement, dans cette perspective, confondent vitesse et précipitation. Et la différence se fait savoir. L'appât du gain, la cupidité, la transformation aussi des conditions sociales font que nous n'avons plus le temps, ou nous ne prenons plus le temps, ni même la place, ou simplement l'opportunité de prendre le temps de faire les choses correctement. Et de privilégier la qualité sur la quantité. Dans bien des cas. Chacun dans la société semble vouloir éviter le travail autant que possible. Il semblerait que ce soit une véritable maladie. Quant au travail accompli, mais où est passé l'enthousiasme sincère qui devrait l'accompagner? Où est passé l'amour du travail bien fait dans une société qui connaît un rythme effréné et qui privilégie la rapidité à la qualité? Pourtant, la Bible nous dit que nous devons nous investir pleinement dans notre travail et faire de notre mieux. Autrement dit, prendre soin de la qualité de ce que nos mains font. Encore une fois, dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10, l'Ecclésiaste dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Autrement dit, profitons de cette vie faisons de notre mieux pendant qu'il en est encore temps. Demandons à Dieu ces choses. Il est clair que le peuple de Dieu doit aborder le travail d'une façon différente par rapport au reste de la société. En fait, Dieu nous demande de mettre toute notre force, toute notre énergie dans notre travail. Alors, que signifie également « fais les choses avec ta force » ? Est-ce que c'est vraiment important de travailler dur ? Est-ce que nous devons souffrir pour travailler ? Quel travail sommes-nous censés accomplir ? Dieu ne donne pas aux disciples une tâche fastidieuse, des choses à faire juste pour les occuper en attendant quelque chose de plus important. Si Dieu a commandé des choses grandioses, des choses importantes à ses disciples, il met également un point d'honneur à les encourager à travailler dur, quelle que soit la tâche. Je disais tout à l'heure que Dieu nous porte littéralement au bureau à McKinney. Vous voyez ces choses à l'œuvre. Vous voyez que les choses sont faciles à faire et qu'elles vont dans le bon sens. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8, l'apôtre Paul nous encourage à avoir une éthique chrétienne véritablement solide. Reportons-nous-y dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 5. Pour commencer, Paul écrit aux Éphésiens, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Et il ajoute, « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Des paroles claires qui nous confirment que notre service est en fait rendu à Dieu, à celui qui nous voit depuis les cieux. Servez-les, vos maîtres, avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Nous assumons notre responsabilité comme si elle nous était confiée par Dieu lui-même. Et en agissant ainsi, nous redoublons de soins, nous redoublons d'attention. On voit ici la motivation supérieure qui va nous permettre de nous dépasser physiquement, intellectuellement et au final de nous dépasser spirituellement avec l'aide de Dieu. Le bénéfice est mutuel, il fonctionne dans les deux sens. Nous sortons de notre routine pour adopter une attitude nouvelle qui va littéralement imprimer nos vies. La doctrine divine nous pousse à servir Dieu, le zèle nous pousse à mieux travailler et l'Esprit de Dieu nous réconforte en produisant en nous les vertus chrétiennes de son fruit. Donc on voit cette synergie en action, on voit ce cercle moteur qui produit du zèle et au final de bons fruits et un très bon exemple social aux yeux du monde, aux yeux de la société. En servant les hommes, en servant l'humanité, nous servons Dieu. En servant nos maîtres, nos employeurs, nous servons Dieu. Une bonne éthique de travail peut paraître simpliste, anodine à certains, mais il faut bien reconnaître qu'elle a tendance à se raréfier aussi dans le monde d'aujourd'hui. Et automatiquement, une telle éthique de travail va faire la différence au fil du temps. Et la clé consiste aussi à faire preuve en même temps de patience, de persévérance, encore un fruit du Saint-Esprit divin. L'apôtre Paul dans Philippiens, encore une fois, Philippiens chapitre 2, reportons-nous-y, Philippiens chapitre 2 nous dit ceci. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il ajoute, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, une bonne attitude, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle, il dit ceci, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et Paul ajoute cela, nous brillons comme des flambeaux dans le monde. C'est l'exemple de Joseph, celle d'un travailleur acharné qui ne se plaint pas, qui ne cherche pas la dispute, mais qui est attentif, qui est soigné dans son travail. Qu'est-ce qui va être utile? Un tel employé se démarquera toujours parce que ses qualités, eh bien, elles sont devenues rares et elles sont appréciées, elles sont recherchées. L'histoire de Joseph nous donne un exemple absolument remarquable. La lumière éclatante d'une bonne éthique de travail. Tout jeune, il a été vendu comme esclave par ses frères. Mais Joseph a travaillé dur. Il a fourni un travail acharné. Et Dieu, au final, a béni ses efforts. Son maître égyptien, Potiphar, a vu comment Joseph se comportait, comment il se distinguait des autres serviteurs. Et en comprenant que, il a compris que Joseph allait lui être utile pour la tenue de sa maison. Et donc, il l'a récompensé pour ses efforts exceptionnels avec une position dominante à son service. Tout comme Joseph, dans notre travail, dans nos responsabilités extérieures, nous pouvons faire preuve du meilleur dévouement possible dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons des priorités bien compréhensible dans nos vies. Nous devons nous occuper de notre emploi, de notre carrière, de notre éducation. Nous souhaitons avoir un salaire qui va, espérons-le, évoluer, qui sera aussi décent que possible. Et puis, nous voulons aussi la capacité de subvenir aux besoins. Nous voulons être capables de subvenir aux besoins de notre famille, évidemment. Tout cela est très important. Ce sont des choses vitales. Mais dans quel ordre définissons-nous ces priorités, et en particulier par rapport à ce que Dieu nous demande de faire? Gagner de l'argent, c'est bien, c'est nécessaire, c'est utile, ça nous permet de manger. Mais est-ce que cela nous accapare? Est-ce que cela confisque notre temps? Est-ce que nous sommes obsédés par ces choses? Est-ce que notre vie en souffre au point que l'amour de l'argent devient un obstacle, devient une distraction pour des choses qui seraient plus importantes que cela. Vous savez, à long terme, nous risquons de ne pas connaître cette réussite que nous appelons de nos voeux. Il faut faire attention. Est-ce que ça nous barre la route spirituellement à notre progression? Jésus a demandé à ses disciples quelque chose de très particulier à ce sujet. Allons dans Luc, chapitre 9. Il les a mis en garde et il leur a posé une question toute particulière dans Luc, chapitre 9, et allons au verset 25. Luc, chapitre 9, le verset 25. Il dit à ses disciples, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, autrement dire, toute la terre, d'être le premier, s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? » Un milliardaire qui a toute la puissance qu'il peut avoir, que fait-il de sa vie? Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous le savons bien, c'est un verset dont il faut nous rappeler, Jésus nous exhorte à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, dit-il, toutes ces choses physiques dont il parlait juste avant, dans les versets précédents, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, élaborons nos priorités. Mettons en priorité le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Ça ne sert à rien de vouloir gagner le monde entier sur le plan matériel. Toutes ces choses dont nous avons besoin dans nos vies quotidiennes vous seront données par-dessus. Allons dans le psaume 49. Psaume 49, un psaume des fils de Corée, de la tribu de Lévi. Psaume 49. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Verset 6. Pourquoi craindrai-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. On voit la limite de l'esprit humain et de la capacité humaine. On voit ce qui est le plus important, notre âme. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Quelques versets plus loin, au verset 18, le psalmiste nous rappelle que nous sommes venus nus dans le monde et que nous le quitterons de la même manière, sans rien apporter de ce que nous avons accumulé. Verset 18, « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. » C'est un verset important qui résume bien le thème dont nous parlons. Tout ce que nous avons accumulé dans cette vie deviendra une possession pour quelqu'un d'autre. Souhaitons-le pour nos enfants qui hériteront de nos biens, en espérant que nous ne leur laisserons pas des dettes, mais que nous leur laisserons des biens dont ils pourront jouir. Dans le tombeau temporaire de la mort, nous n'emportons rien. Après quoi viendra le jugement, le jour de notre résurrection. La Bible en français courant restitue bien les pensées de Salomon à ce sujet. Dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 12 à 15, et je lirai dans la Bible en français courant, Salomon dit ceci, « J'ai observé sur la terre une situation dramatique, écrit-il, celle de quelqu'un qui a mis son argent de côté pour son propre malheur. Il perd sa fortune dans une mauvaise affaire, il n'a plus rien lorsque lui naît un fils, il devra quitter cette terre comme il y est venu, aussi nu que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Il n'aura rien retiré de son travail, rien qu'il puisse prendre avec lui. C'est un grand malheur, écrit Salomon, un grand malheur pour lui de quitter le monde comme il y est entré. Quel avantage a-t-il retiré ? Il a travaillé pour du vent. Il a travaillé pour du vent. » Voilà la perspective de Salomon sur cette vie et sur les priorités de la vie. Dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 12 à 15, Ecclésiaste 5, 12 à 15, je venais de lire dans la Bible en français courant. Et vous pouvez lire, bien entendu, dans notre version officielle de la nouvelle édition de Genève. Au moment de monter sur la scène internationale, il y avait deux hommes qui allaient devenir illustres. Et ils nous ont montré le bon exemple dans la vie. Je veux parler, bien sûr, de Jean-Baptiste et surtout de Jésus. Jean-Baptiste avait été envoyé annoncer la venue du Messie, tant attendu, prophétisé dans les Écritures depuis des siècles, Christ, le Sauveur du monde. Jean était un orateur efficace, dont le message de Jean et son message était très différent de celui que les Juifs de cette région avaient l'habitude d'entendre. Incapables de cerner sa personnalité, de comprendre ce qu'il disait, ils essayaient de le pousser dans ses retranchements. Ils essayaient de le coincer, ils n'arrêtaient pas de le questionner, ils l'essayaient de questions. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, nous lisons leur intervention. Jean, chapitre 1. Allons au verset 19. Jean, chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean, Jean-Baptiste, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Et il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Et il répondit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Il faisait son travail, et les Juifs, les principaux des Juifs de son temps, voulaient savoir ce qu'il faisait. Dans Jean chapitre 8, verset 25, je lirai dans la grande Bible de Tours, ils lui dirent « Qui êtes-vous » Et Jésus lui répondit, c'est Jésus qui parle là à ce moment-là, Il voulait savoir qui était Christ. Et Jésus répond, je suis le principe, moi-même qui vous parle. Il était donc le Fils de Dieu, le principal. Jésus dit alors aux Juifs qui le croyaient, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et dit-il, une chose très importante, la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Autrement dit, la vérité vous rendra libre. Jésus leur faisait comprendre qu'il est, lui, le premier, le principal. Il est Christ, le Messie, loin du Seigneur, l'homme le plus important ayant jamais vécu sur terre. L'homme promis à un destin éternel, à un règne éternel. Dieu et Fils de Dieu. En tant que Sauveur de l'humanité, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il faut que nous en venions à nous demander ce que nous sommes. Qui suis-je? Où vais-je dans la vie? Où est-ce que je vais? Quels sont mes grands objectifs, mes vraies priorités? À quel point notre vie spirituelle est importante? Nous devons comprendre ces choses. Que serais-je devenu une fois arrivé à mes fins? Et quel en sera le résultat final? Quel est mon avenir? Christ nous met en garde contre l'importance excessive accordée aux choses temporaires qui perdent de leur valeur avec le temps. Dans Matthieu chapitre 6 et le verset 19, il nous dit ceci. Il nous met en garde, Matthieu chapitre 6 et le verset 19. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Les valeurs en bourse, les actions, les obligations peuvent s'effondrer à la suite d'un krach boursier ou des aléas imprévisibles de la conjoncture. Les économies en banque sont à la merci des États qui sont eux-mêmes endettés. Les investissements dans les valeurs immobilières, terrains et immeubles sont parfois à la merci des squatteurs dans certains pays, où il est souvent impossible de les récupérer avant 10 ou 15 ans. Et puis, si on avait ne serait-ce que des monceaux d'or ou d'argent, qu'est-ce que nous en ferions? Que peut-on en faire s'il n'y a plus de nourriture? Rien, on ne peut pas manger ni l'or ni l'argent. Quand la nourriture et l'eau disparaissent, c'est alors que l'humanité est perdue et que personne ne serait sauvé. Jésus nous a mis en garde contre cela. Finalement, l'apôtre Pierre dit ceci dans 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Dans 2 Pierre, chapitre 3, apôtre, chapitre 3, et il dit au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » L'avenir est merveilleux et nous attendons cet avenir. Nous l'appelons de nos vœux. Pour l'instant, ce que l'Église veut faire, c'est remplir sa mission. C'est prêcher l'Évangile. C'est prêcher la bonne nouvelle de l'établissement par Jésus lui-même, en personne, sur terre, de ce royaume de Dieu tant attendu depuis des siècles. Un royaume de paix, un royaume de prospérité, et aussi, aujourd'hui, de préparer un peuple au moyen de tous ceux que Dieu appelle et appellera de tous les confins du monde. Et si vous nous écoutez pour la première fois, ou depuis peu de temps, nous souhaitons bien sûr que vous puissiez donner un sens à votre vie maintenant. Nous souhaitons vous aider, nous souhaitons vous guider, ici dans l'Église de Dieu, à mesure que vous prenez connaissance du plan de Dieu, que Dieu a conçu pour l'humanité et qu'il explique dans sa parole, dans la Bible. Nous souhaitons expliquer ces choses. Elles sont logiques, elles sont claires, elles sont précises. Et Au final, pour en revenir au thème de ce message, peut-être aujourd'hui n'aimez-vous pas beaucoup votre travail. Personne ne vous blâmerait pour cela. Les conditions pour exercer votre métier ne sont peut-être pas aujourd'hui les meilleures, il faut bien le reconnaître, en général, mais ce qui devrait nous encourager, vous encourager, je l'espère de tout cœur, c'est de savoir que vous avez une destinée bien supérieure à ce que votre emploi quotidien pourrait vous laisser espérer maintenant. En répondant à l'appel divin, chacun d'entre nous a d'ores et déjà la possibilité de se préparer maintenant à assumer un autre emploi, infiniment plus enrichissant et qui dépasse l'imagination, avec la possibilité de seconder littéralement le roi des rois, Christ, dans son instauration après son retour de la paix, de la prospérité, en donnant un sens à la vie de tous les êtres humains. Je souhaite de tout cœur que ce sermon nous aura tous encouragés à nous ancrer dans cette merveilleuse perspective à venir du retour de Jésus-Christ sur terre. Dans cette attente, faisons notre part. Travaillons bien, cultivons cet amour du travail bien fait, en nous servant les uns les autres. De sorte qu'un jour, le jour de sa venue, nous puissions entendre notre Maître à tous nous dire, à chacun de nous, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. »